le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant pour cette émission spéciale consacrée à Aretha Franklin. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Luc Gadreau. Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes pasteur de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Très sensible à l'art, à la culture. Vous êtes cinéphile, musicien, chanteur. Et vous venez de publier une biographie d'Aretha Franklin, immense chanteuse nord-américaine, née en 1942 et décédée en 2018. Elle a enregistré 42 albums studio, vendu 75 millions de disques, une chanteuse qui avait réussi à se faire écouter par les Noirs et par les Blancs, au cœur d'une Amérique divisée par la ségrégation, une chanteuse aussi inspirée, qui n'hésitait pas à parler de sa foi en Jésus-Christ dans ses chansons. Et je vous propose de commencer cette émission en l'écoutant. C'était un extrait d'Aretha Franklin, une reprise de 1968, un célèbre titre qu'on pourrait traduire en français, ça fait un peu bizarre, mais par « Je fais une petite prière ». Jean-Luc Gadreau, qu'est-ce qui vous touche chez cet artiste ?
Tellement de choses. Alors il y a sa voix, bien sûr, ça c'est indéniable. Alors vous l'avez dit, je suis musicien aussi, donc tout le côté musical... j'ai bientôt 53 ans là dans quelques semaines et donc j'ai baigné avec ce style de musique. J'aime beaucoup la soul et Aretha est incontournable. Et puis après il y a eu la découverte de l'artiste et ce qui m'a rejoint aussi peut-être de façon plus particulière, c'est aussi justement à la fois ses engagements autour des droits civiques, des femmes, de beaucoup d'aspects qui étaient importants pour elle, et puis sa foi. Je suis pasteur baptiste, et c'est vrai que voilà, Sister Soul, Aretha Franklin, pour moi c'est quelqu'un vraiment de particulier, d'extraordinaire.
Et c'est justement le titre de votre livre, Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ces combats, donc ce dont vous venez de nous parler. Dans quel contexte a grandi Aretha Franklin ?
Alors, on est donc à Détroit. En fait, en 1946, ses parents se sont installés là dans cette ville, suivant un petit peu la migration afro-américaine classique du sud vers le nord, vers l'est des États-Unis, le Midwest également. Et son père, C.L. Franklin, était pasteur, et pasteur principal d'une église de Détroit sur Hastings Street. Alors, c'est important de préciser la rue parce que c'est un des quartiers noirs de Détroit très important où se côtoient cette église, d'autres, et puis beaucoup de clubs de musique. Et donc, c'est là qu'elle va grandir, dans cette ville, dans cette ambiance où se mélange à la fois musique et spiritualité.
Je vous propose de plonger dans cette musique de ces églises noires américaines de l'époque d'Aretha Franklin, avec ce titre, What a Friend We Have in Jesus, la version anglaise et originale du chant qu'on connaît en France, Quel ami fidèle et tendre. « What a friend we have in Jesus. Quel ami fidèle et tendre, Aretha Franklin. Pasteur Jean-Luc Gadreau, comment ce chant résonne avec la culture d'église d'Aretha Franklin ?
Alors, le père d'Aretha est baptiste. Ce sont ces églises noires américaines avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'ambiance. Aujourd'hui, on va aux États-Unis, même si on n'est pas croyant, très souvent, on va dans une église, entre guillemets, de gospel, souvent baptiste, pas uniquement, mais très souvent, parce que c'est toujours le cas, ça fait partie de la culture, on chante beaucoup, on réagit aux prêches du pasteur. Et par exemple, Aretha a 10 ans quand elle chante son premier solo dans son église. Alors, elle faisait partie d'abord de la chorale des enfants, après elle rejoint la chorale des adultes. Et puis à 10 ans, on lui donne de faire son premier solo dans l'église. Alors il y a quand même 2500 personnes dans l'église. Voilà, donc déjà un joli public.
Et Aretha, il va avec tout ce qu'elle est, avec son authenticité aussi, c'est important.
Ça. Ouais, ouais. Et puis elle a grandi avec les émotions des artistes comme Clara Ward, Ella Fitzgerald, enfin toutes les chanteuses que fréquentait son père et qui étaient donc des amis de la famille. Alors elle sait ce qu'est l'émotion, elle sait faire passer ses émotions dans sa voix. Il y a d'autres raisons aussi, parce que c'est aussi une enfant blessée, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc elle le fait avec toute sa spontanéité d'une enfant de 10 ans, sans réfléchir. Et là, l'église réagit, paraît-il, avec grande émotion et grande ferveur, réagit à ce qu'elle dit. Et
tout le monde est touché.
Tout le monde est touché et déjà se dit, là, il y a une pépite, il y a quelque chose de particulier chez elle, dans sa voix, mais aussi dans ce qu'elle est.
Et donc, vous avez évoqué la petite fille blessée, peut-être à l'origine donc, de cette sensibilité. Parlons-en.
Mais oui, parce que là, on parle que du beau côté de la pièce, mais il y en a un autre qui va l'accompagner d'ailleurs toute sa vie, un côté plus sombre, et ça commence très jeune. Alors son papa est un pasteur, mais c'est un pasteur atypique dans tous les sens. Il n'a pas une vie non plus très 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 droite, si l'on peut dire. Il a des aventures, et sa femme va quitter le domicile familial très très tôt.
Sa femme va en avoir marre et
elle s'en va. Et elle était encore qu'une enfant là, elle était toute jeune. Aretha, très proche de sa mère, donc elle va très mal le vivre. Et en plus, Barbara, donc la maman d'Aretha, va mourir 4 ans plus tard. Donc très rapidement. Alors c'est un double deuil. Il y a le deuil du départ et après il y a le vrai deuil de la mort de sa maman.
Et c'est quelque chose qui restera toujours en
Aretha,
cette blessure.
Ah ouais, complètement. Alors elle sera très proche de son papa qui va l'accompagner toute sa vie. Et puis à la fin, c'est elle qui s'occupera de son papa malade. Donc pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des choses compliquées. Et puis en plus... elle est très jeune, considérée comme une artiste. Son père fait des tournées de gospel dans les États-Unis. Il va prêcher avec une chorale qui l'accompagne. On enregistre des disques de ses sermons qui sont vendus comme ceux de, je parlais de B.B. King. Dans les mêmes magasins, on trouvait l'album de B.B. King et l'album de la prédication du pasteur Franklin. Et donc, elle accompagne son père et la chorale. Lui voyage souvent en avion. Mais tous les musiciens et chanteurs sont en bus. Elle a une dizaine d'années, 12 ans en fait. Elle voyage avec tous ces musiciens, chanteurs, et puis elle tombe vite enceinte, un premier enfant, et puis un deuxième, si bien qu'à 15 ans, elle a déjà deux enfants.
C'est ça, un enfant à 13 ans, un enfant à 15 ans.
C'est ça.
Et donc on imagine contexte un petit peu compliqué. Sans surveillance.
Ouais, c'est ça. On peut imaginer tout ce qui se passe autour sans difficulté. Alors il y a une grand-mère, Big Mama, qui est là et
qui rattrape toujours un peu
voilà,
tous les coups.
Il y a pas de souci. Elle prend le relais. Il y a pas de souci. Ça marque quand même quand t'as 15 ans, on a deux enfants et qu'on a perdu sa maman et beaucoup d'autres choses autour qui font que c'est compliqué.
Une enfance difficile, un milieu où il se passait des choses difficiles. Et dans ces moments difficiles, la communauté pouvait chanter ce cantique très populaire. « Précieux Seigneur, prends ma main », le chant préféré de Martin Luther King, qu'Aretha a d'ailleurs interprété pour ses funérailles. Et on l'écoute maintenant. « Precious Lord, take my hand ».
Leave your heart.
Precious Lord, take my hand, Aretha Franklin. Si on devait traduire, précieux Seigneur, prends ma main, emmène-moi, laisse-moi me reposer. Je suis fatigué, je suis faible, je suis usé. Au travers de la tempête, au travers de la nuit, prends ma main, précieux Seigneur. Pasteur Jean-Luc Gadreau, on est en votre compagnie pour discuter d'Aretha Franklin. Et donc on vient d'écouter ce chant, ce célèbre chant qui est un medley là avec un autre chant qui est issu de la culture populaire pas religieuse, You've Got a Friend, tu as un ami. Pourquoi ce mélange?
Alors ça correspond, c'est l'héritage de son père là typiquement. L'enregistrement vient de son concert Amazing Grace, on en reparlera, mais là elle fait le choix de mêler ces deux morceaux. Ça symbolise parfaitement la rencontre de l'Esprit Saint et de la culture populaire avec ce pot-pourri, puisque on a donc le Precious Lord Take My Hand, et puis ce morceau qui est un morceau profane de 71, popularisé par James Taylor notamment, You've Got a Friend. Et c'est cette préoccupation en fait de mélanger à la fois sa foi chrétienne qui est omniprésente dans la vie d'Aretha, et puis tout le reste, la relation au monde, à la culture séculière. Et là, elle suit ce qu'elle a appris avec son père en fait, tout simplement. C'est d'ailleurs une volonté depuis le départ chez Aretha de ne pas être enfermée dans quoi que ce soit.
Et puis quand elle dit « you've got a friend », elle dit « tu as un ami » en pensant à Jésus aussi. Elle se réapproprie les choses.
Oui, tout à fait. Là, c'est pour ça que les deux peuvent tout à fait coller ensemble. Ce que je voulais dire, c'est que ce refus d'être enfermé, on le voit aussi dans l'idée pour elle fondamentale de ne pas être une artiste noire pour le public noir.
C'est-à-dire qu'elle voulait toucher aussi
les blancs, être dans les hit parades pop, et pas simplement black, gospel ou soul. Ça a été son exigence depuis le départ. On appelle ça un crossover, c'est-à-dire le fait de traverser une forme de frontière établie, raciale, culturelle. Et elle, c'est ce qu'elle recherche. Elle va avoir du mal à le faire au départ, puisque avec son premier label, ça fonctionnera pas. Elle changera de label et c'est là, finalement, que ça va pouvoir se faire.
Oui, il y a un moment donc dans la carrière d'Aretha Franklin où ça décolle, et on a notamment cet album I Never Loved a Man, Je n'ai jamais aimé un homme, qui sort en 1967, qui se vend à 1 million d'exemplaires. C'est le premier carton d'Aretha, le premier album qui touche vraiment tout le monde.
Oui, c'est ça, et puis il y a surtout le titre Respect dedans. On en a entendu un petit bout tout à l'heure. Respect, ça va devenir l'un enfin, c'est un hymne générationnel, si l'on peut dire, puisqu'il va être repris par tous ceux qui se sentent opprimés. La reprise d'Aretha est particulière, puisqu'elle fait de cette chanson, qui était une chanson très macho au départ.
C'est un homme qui l'a composée, ouais, qui l'a écrite, ouais. C'est ça qui est drôle.
Et puis, voilà, je rentre à la maison, je rentre de tournée, il parle à sa femme, il va falloir que tu t'occupes de moi et puis que tu fasses le nécessaire.
Sauf que dans la bouche d'Aretha,
C'est le sens
femme.
Inverse, c'est moi que tu dois respecter. Alors bien sûr, les femmes vont en faire un hymne. On est aussi là dans un temps où le féminisme commence à prendre beaucoup d'importance aux États-Unis. Il y a des choses qui sont revendiquées très justement, elles le sont encore aujourd'hui, alors on peut imaginer à cette époque.
Il y a aussi les droits civiques noirs américains.
C'est ça.
Respect.
Les noirs, pour eux, c'est aussi une chanson qui devient un hymne. Les homosexuels aussi vont le reprendre à leur actif. Enfin, en fait, je dirais vraiment toutes les catégories qui se sentent opprimées d'une façon ou d'une autre vont trouver là, avec ce titre Respect, un hymne qui dit l'essentiel.
Donc la carrière prend une nouvelle tournure avec ces différents titres qui sont hit parade. Et pourtant, au niveau vie personnelle, Aretha Franklin ne va pas si bien que ça. Au niveau amoureux, c'est compliqué. Au niveau de sa dépendance à l'alcool, c'est compliqué. Comment on explique un petit peu ces difficultés ?
Tout à l'heure, je parlais d'une même pièce avec deux côtés, un côté lumineux et puis un côté sombre. Ça va être l'histoire de la vie d'Aretha Franklin. Et c'est son premier mari, peut-être, qui va être un élément assez destructeur. Il sera son manager et va l'accompagner plutôt pas mal. Il s'appelle Ted White. Il va l'accompagner plutôt pas mal au niveau artistique au départ. Après, ça va un peu se gâter.
Sauf qu'à la maison, il la frappe.
Ben voilà, il la frappe et puis il la manipule complètement. Et puis il la fait tomber dans toutes sortes de dépendances, dont l'alcool en particulier, et de façon très très poussée. Alors c'est aussi son corps qui en prend avec l'alcool. Elle grossit, elle ne supporte pas son apparence. Il y a plein d'anecdotes autour de ça. On sent que c'est compliqué, elle est en pleine dépression très souvent, elle se replie sur elle-même.
Comment on peut être si malheureux tout en étant croyant, tout en proclamant autant, avec autant de vigueur, la foi comme Aretha Franklin ?
Être chrétien, ça n'est pas un parapluie contre les difficultés et les épreuves. Le chrétien voilà, subit les mêmes choses que les autres. Il y a les choses naturelles qui se produisent dans la vie, et puis il y a aussi les choix qu'on fait, avec les conséquences derrière. Aretha ne fera pas toujours les choix les meilleurs. Hein. Par contre, elle va savoir assumer les conséquences, et traverser la difficulté. Pour moi, c'est ça qui est très très frappant, très interpellant, et toujours en restant attaché à Dieu, sans jamais s'en prendre à lui, mais au contraire, en trouvant avec lui la main dont elle parle quand elle dit « Precious Lord, take my hand, prends ma main ». On va retrouver ça dans un certain nombre de chansons, elle s'accroche à Dieu pleinement, et elle le dit d'ailleurs ouvertement, très clairement. Hein.
Et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des bonnes actions,
oui,
pour manifester sa présence, son amour, son soutien à ses enfants. Donc malgré sa vie, malgré ses mauvais choix, l'alcool par exemple, Dieu va être aussi à ses côtés. C'est aussi un message que vous affirmez en tant que pasteur,
très hein, clairement,
pour sortir d'un certain moralisme.
Mais c'est ça la grâce. La grâce, elle est offerte à tous, quel qu'on soit. Alors, bien sûr, la foi nous appelle sans doute à essayer de vivre le mieux possible, d'essayer d'avoir un beau chemin. Mais en même temps, Dieu ne regarde pas à ça pour dire je t'aime ou je ne t'aime pas. Il nous aime, un point, c'est tout. Et sa grâce est offerte à tous. Alors j'ai un texte dans la Bible que j'aimerais citer, qui évoque bien cela. Il se trouve dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 7 à 9, qui dit « Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. » C'est ce qu'on vient de dire, tout simplement. C'est ce que la Bible affirme aussi très précisément. Le résultat ne vient pas de nos efforts. Ça n'est pas en essayant de vivre mieux qu'on gagne quoi que ce soit de la part de Dieu. L'amour de Dieu est donné à tous. Après, à nous de savoir l'accueillir. Ça, Aretha va savoir le faire. Tout le monde ne le fera pas. Je pense à d'autres artistes qui sont nés aussi au cœur de l'Église, qui ont eu une carrière brillante et qui vont complètement finalement s'éloigner de la foi et du moins ne pas arriver à se raccrocher à Dieu dans leurs difficultés et parfois même en mourir.
Donc cette grâce dont vous parlez, c'est ce message qui est au cœur de cette chanson célèbre. La grâce de Dieu infinie, Amazing Grace, le message profond de l'évangile que vous rappelez. Et c'est un chant que Aretha Franklin a interprété aussi. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte un peu particulier de l'enregistrement de cette chanson et de cet album avant qu'on l'entende?
Oui, bien sûr, Amazing Grace. Alors c'est l'album peut-être phare quand même d'Aretha Franklin, puisqu'il est toujours l'album de gospel le plus vendu au monde. Ce sera l'album le plus vendu aussi dans la carrière d'Aretha. Il est enregistré en fait pendant deux nuits en janvier 72 à la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles avec le révérend James Cleveland, qui est un ami proche de la famille Franklin, l'ancien directeur musical de son église à Détroit et que l'on qualifie d'être le roi du gospel. Aretha, c'est la reine de la soul, lui le roi du gospel, et ça donne le plus bel album qui en plus se retrouve filmé par Sidney Pollack, ne sort pas plus tard au cinéma. Enfin, si, il est sorti cette année en 2019. On peut le trouver maintenant en DVD et je ne peux que conseiller de regarder cet enregistrement fabuleux. Ça n'est pas un concert, c'est une célébration et c'est filmé comme tel. La paroisse qui est là, et d'ailleurs c'est surtout des gens de l'église qui sont là, bien que Mick Jagger arrive à s'immiscer au milieu d'eux, chante, loue le Seigneur, danse, et puis il y a la chorale, il y a Aretha, il y a des musiciens de James Cleveland.
Et donc on écoute Amazing Grace enregistré dans cette église. Merci beaucoup Jean-Luc Gadreau, pasteur de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France, d'avoir été avec nous.
Merci Benjamin.
Je rappelle que vous êtes auteur du livre Sister Saul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ses combats.
Aux éditions Pélos.
Pélos. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération Protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et merci pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant@.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Et je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante. I see.